Oui, comme vous le savez, les États-Unis, les Américains dépensent 14% de leur produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale produite dans le système de soins et de santé. Alors qu'en France, le pourcentage n'est que de 9,5. Donc nous sommes tout à fait dans la moyenne européenne, et donc il n'y a pas à s'affoler que l'on dépense davantage d'argent dans une société où les gens vivent beaucoup plus vieux. Il ne faut pas considérer ça comme une charge, mais comme un facteur d'épanouissement. D'autre part, le trou de la sécu, qui est l'angle à travers lequel on aborde le problème exclusivement, eh bien, est un trou totalement gérable. 13 milliards d'euros en 2003, il y a beaucoup de façons de récupérer très facilement 13 milliards d'euros. Or, effectivement, les réformes qu'il faudrait plutôt appeler contre-réformes, comme l'ensemble d'ailleurs de celles qui ont été effectuées par le gouvernement Raffarin, obéissent toutes à une même logique, c'est revenir sur des acquis, disons, qui datent de la libération. En fait, on est en train de revenir sur la mise en application du programme du Conseil national de la résistance, dont nous avons parlé au mois de mars dans nos colonnes. Et depuis, le FMI et la Banque mondiale ont considéré que ces réformes, retraite, sécu, etc., avaient été décidées dans une des circonstances exceptionnelles, qui était un rapport de force très différent entre la gauche et la droite, disons, pour simplifier, en Europe, au lendemain de la guerre.
Et les forces politiques et syndicales et le patronat.
Voilà, et un patronat très affaibli, notamment en France, par la collaboration avec l'ennemi nazi. Et donc, ces circonstances exceptionnelles ayant disparu, il faut revenir à l'ordinaire. Et cet ordinaire, c'est effectivement les projets que l'on nous présente, exclusivement d'ailleurs sous l'angle du financement, alors que c'est loin d'être le seul problème qui se pose pour l'assurance maladie. Mais si on veut parler du financement, ce fameux trou, il y a plein de façons de le combler. Si c'est ça le problème, ce n'est pas le seul problème. Il faut accepter qu'il y aura davantage de dépenses, et il y a beaucoup de choses à faire dans la prévention des maladies, ne serait-ce que les maladies professionnelles. On sait que l'amiante continue à tuer 3000 personnes par an en France, et ça va malheureusement continuer. La pollution urbaine sont des causes de cancer. Enfin, s'il y avait un véritable travail de prévention, les accidents du travail, etc., etc. Mais ça, la réforme, entre guillemets, ne l'envisage pas. De même qu'il y a des choses à faire en matière de prise en charge du patient. Alors, on dit Douste Blasi a joué au scandalisé en parlant de l'excès des certificats de maladie de complaisance, alors qu'ils représentent même pas 1%, 0,0 quelque chose. Bon, c'est vrai, c'est pas normal, mais c'est pas de ce côté-là que l'on va faire vraiment des économies sérieuses.
Mais politiquement, c'est toujours profitable de pointer des abus.
De pointer des abus, et comme ça, l'opinion peut dire, si on supprimait les abus, on supprimerait le trou. C'est ridicule. Il faut évidemment supprimer les abus lorsqu'il y en a, mais il ne faut pas donner d'illusions aux gens sur ça. Bon, il y a également aussi les groupes pharmaceutiques qui gémissent en permanence que si jamais on les taxe, ils ne pourront plus faire de recherche. Or, ils dépensent davantage en communication, c'est-à-dire pour forcer la vente, que en recherche. Ça n'apparaît jamais dans leur plan de communication qui arrose une large partie de la presse. Et la liberté des prix qui leur est accordée pour les médicaments dits innovants est choquante, parce que l'auteur nous cite quelques chiffres. Il dit qu'en 21 ans, sur 1996 nouveautés vendues, seules 7 peuvent être considérées, donc 3,5, même pas 7 sur 2000 peuvent être considérées comme véritablement innovantes. Donc, alors,